Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Julia Vignali.
Bonjour Mélanie Gomez.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Et oui Mélanie, du lundi au vendredi, dans cette émission positive, on vous parle de votre vie quotidienne, comment être bien ou mieux dans vos baskets ou avec les autres, à la maison ou au travail.
Et oui, on va prendre soin de vous pendant 1h30, mais on vous donne aussi la parole. D'ailleurs, n'hésitez pas, on attend vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Ou encore sur Twitter, pardon, sur le hashtag Europe 1.
Alors tous les jours chez nous, je vous rappelle le principe. On ouvre cette émission par une question. Et aujourd'hui, la voici. Peut-on vraiment arrêter de fumer pour de bon ? Alors on ne va pas se mentir, à chaque rentrée ou à chaque 1er janvier, l'arrêt du tabac est dans la liste de nos bonnes résolutions. Mais parfois, elles ne durent pas bien longtemps, malheureusement. En même temps, Mélanie, vous le savez, hein, c'est dur d'arrêter de fumer.
Eh oui, 5-6 fois, mais c'est la bonne cette fois. Alors j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, on va tout reprendre à zéro parce qu'arrêter le tabac, ça se prépare. Et ensuite, suivant les bons conseils, ça peut même se faire sans douleur, j'en suis la preuve. Pour en parler, nous recevrons Nathalie Latour, elle est déléguée générale de la Fédération Addiction. Ensuite, dès 11h45, ce sera notre rubrique Tendance avec tous les jours deux de nos chroniqueurs. Ceux qui dénichent pour nous des objets, des loisirs ou des sociétés insolites qui font le buzz. Et ce matin, Soizic Belin nous fera pénétrer dans les coulisses d'un bar d'un nouveau genre. Tenez-vous bien Mélanie, un bar à fantasmes.
Oh.
Et puis, Philippine Darblay sera également de la partie, elle va nous dire ce qu'il faut penser aujourd'hui de ces nouveaux supermarchés en ligne.
Enfin Julia, dès midi, la dernière demi-heure de l'émission sera consacrée à notre santé, notre bien-être. Aujourd'hui, on a tout prévu. On s'est dit que notre premier sujet de l'émission sur l'arrêt du tabac allait peut-être vous donner quelques sueurs. Alors on a invité pour vous la dermatologue Laurence Netter. Elle nous donnera ses meilleurs conseils contre les problèmes de transpiration.
Europe 1.
Voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre nouveau magazine pour être mieux dans son corps, dans sa tête, une émission positive pour se faire du bien à soi, mais aussi aux autres. Et donc Julia, comme tous les matins, on attaque avec une question du jour.
Et oui Mélanie, aujourd'hui la question est simple, peut-on vraiment arrêter de fumer pour de bon ? Alors avant de présenter notre invité sur cette question, on va accueillir celui qui nous donne le top départ tous les matins, c'est Clément Lanoux. Bonjour,
bonjour
Clément.
Bonjour.
Alors le tabac Clément, c'est tabou, ça peut être un sujet de crispation même. Qu'est-ce qu'on dit les gens que vous avez interrogés ?
Je suis parti à leur rencontre, je suis allé jusqu'en Espagne. D'ailleurs, je vous ai ramené des cartouches de clopes.
Ah, merci.
Voilà. Non, c'est pas vrai du tout. Justement, comment arrêter de fumer ? La question, je l'ai posée à Paloma, elle a 10 ans, Paloma.
T'as des applications pour arrêter de fumer, je peux faire du sport. Et puis, une fois que, imaginons, si t'as un paquet de cigarettes, tu termines ton paquet et après, t'essayes de plus en racheter et de plus y penser. Ça va marcher parce que ma mère, elle fait ça et... Je pense que ça va marcher.
Et toi, tu vas fumer quand tu seras grande ?
Ah non, jamais. Je ne testerai pas. J'ai pas envie de savoir comment on fait. Parce qu'il paraît que si tu prends une cigarette, après, ça addict en fait.
Alors elle a raison, c'est complètement addict. Tout est dit, j'aurais pu m'arrêter là. J'ai interrogé un autre enfant, vous verrez tout à l'heure, ce sera une toute autre réponse. Mais entre-temps, je suis allé voir les adultes. Alors c'est quoi leur technique à eux ? Est-ce qu'il existe vraiment une technique pour arrêter complètement ?
Alors moi j'ai pas forcément de technique, mais il a fallu malheureusement que j'ai un problème de santé pour que je puisse m'arrêter. Sinon j'y arrivais pas, c'était impossible.
Et vous ?
Eh ben écoutez, moi je ne fume pas, mais par contre ma chérie, ça fait 10 fois qu'elle essaye d'arrêter de fumer et bah là elle est encore dehors en train de fumer une clope. Donc j'aimerais bien avoir une technique pour connaître la solution pour arrêter de fumer.
Alors je suis allé interroger sa chérie justement. Dans cette chronique, je tiens à ce qu'on garde l'anonymat. Pour cette fois-ci, c'est loupé, mais il y a une technique intéressante quand même.
Moi j'ai la clope sociale. J'achète jamais de paquets, mais par contre je fume les clopes des autres.
Je confirme. À chaque fois qu'on est en soirée, j'achète un paquet. Un paquet parce que je sais que Odéla.
Mais et c'est surtout... pas mon prénom.
Ah, ben, j'ai coupé apparemment. Donc grillé dans toute la France. On a tous ce pote un petit peu taxeur. Alors pour arrêter de fumer, il y a une solution quand même. Mélanie, je sais que vous l'avez fait. Vous avez fait le mois sans tabac et après vous êtes passé à la vapote justement.
Exactement.
Et ça a marché.
Bah, deux
et,
ans.
Voilà. Et vous allez arrêter bientôt la vapote.
Bah, je vais essayer, mais bon,
c'est déjà
un
objectif.
Mal, on va dire.
Parce
bien
que
sûr.
Je suis tombé sur un homme qui me conseillait la vapote, mais lui ça a pas trop marché.
Ah.
Ouais, j'ai essayé la cigarette électronique.
Et alors?
Ça a super bien marché au début, sauf que maintenant j'ai la cigarette électronique et j'ai la cigarette.
Ah,
voilà, ça peut être embêtant.
Ouais.
Si vous écoutez dans quelques secondes, j'espère, on aura des solutions. Mais juste avant, je voudrais terminer avec Sacha. Sacha, il est en CM2. Lui, il nous explique complètement sa vision et du tabac et de son avenir.
Un peu à rien, mais dans les films, quand ils voient qu'ils fument, bah, c'est un peu la classe. Sinon, pour la santé, bah, c'est complètement nul. parce que tu peux mourir d'un cancer, un truc dans le genre.
Et toi, quand tu seras grande, tu penses que tu vas fumer pour te la raconter ou au contraire, tu vas faire gaffe à ta santé?
Je vais faire gaffe, moi. Pas fumer. Peut-être de temps en temps avec des potes, mais je sais pas encore. Mais sinon, je pense plus un verre.
Ah oui.
Tu vois, les verres d'alcool, genre, ça touche pas les poumons. Du coup, moi, je me dis, c'est mieux que rien. Oh.
Toi, quand tu seras grand, tu préféreras boire que fumer?
Effectivement, mais quand même faire attention à boire.
Voilà, faites attention. L'alcool également,
le
tabac.
Un verre par jour et pas tous les jours.
Effectivement.
C'est important.
Mais je pense avoir des réponses. Mais finalement, les enfants sont très honnêtes. Ils nous voient et ils ont l'impression que l'alcool est moins dangereux que le tabac. Ouais. Donc, les deux sont dangereux, les enfants, je le dis quand même.
Bien sûr.
Voilà. Mais surtout quand on est enfant.
Voilà, exactement. Ouais, tout à fait.
On n'y touche évidemment pas. Merci beaucoup, Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain. Mais je vous propose d'accueillir ensemble notre invité. Et c'est Nathalie Latour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de la Fédération Addiction. Et avec vous, on va s'attaquer à ce sujet sensible de l'arrêt du tabac. On va peut-être commencer par dresser un petit état des lieux sur la situation dans notre pays. On en est où de la consommation de tabac chez nous, les Français ?
Eh bien, on va dire qu'en 2020, on a arrêté de baisser. C'est-à-dire que pendant de 2016 à 2019, on a eu une forte baisse. Vraiment, on a perdu à peu près 5%, 5 points de
fumeurs en moins.
De fumeurs en moins.
Ce qui est une belle réussite. Hein.
Ce qui est une très, très belle réussite. Et là, on a constaté que c'était une année, on va dire, blanche. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu, mais on a stagné. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que sur certaines catégories de population, on a réaugmenté. Et notamment, donc, les personnes qui sont plus fragiles économiquement parlant, notamment les personnes qui sont au chômage, etc. On a des forts taux en fait, de progression de consommation de tabac.
Nathalie Latour, est-ce que la crise sanitaire en elle-même peut être montrée du doigt par rapport à ces chiffres? Est-ce qu'elle a eu un impact vraiment elle-même sur le tabagisme?
Alors pour le moment, c'est encore un petit peu trop tôt pour le dire parce que les chiffres qu'on a obtenus du baromètre santé de Santé publique France qui nous donnent ces éléments-là, ils sont plutôt liés pour nous à l'hypothèse de la crise sociale des Gilets jaunes qui a été quand même un moment de stress extrêmement important. Et les premières études qu'on a eues sur le confinement montraient finalement une situation qui reste encore à analyser. À peu près un quart avait augmenté, mais il y avait des gens qui avaient stabilisé, des gens qui avaient réussi à baisser. C'est évident que, encore une fois, la question du stress, de l'anxiété, de la dépression, d'une difficulté à se projeter dans l'avenir, tout ce qui est autour des incertitudes, sont des éléments documentés qui favorisent l'usage de substances et aussi le tabac.
Alors, rapidement, est-ce qu'on sait combien de Français sont fumeurs exactement? Je crois d'ailleurs que longtemps, on pensait que les hommes étaient plus concernés, mais là, c'est en train de changer, c'est bien ça?
Tout à fait. Aujourd'hui, on a environ encore donc, 10 millions de personnes qui sont fumeurs. Un Français sur quatre donc, qui fume quotidiennement. Donc, ça reste encore des chiffres importants. Et en ce qui concerne les femmes, oui, il y a eu une grande stratégie, on va dire, de l'industrie du tabac, de les cibler du point de vue du marketing, donc beaucoup dans les années 50. Et dans les années 70, on a eu finalement une courbe qui s'inversait pour les hommes et qui augmentait pour les femmes. Dans les années 2000, il y a eu un gros effort de, là aussi, de packaging dédié aux femmes, les petits paquets de cigarettes, etc., les couleurs un peu sexy. Et donc, bah forcément, ça a ciblé les femmes.
Ah là là, Nathalie Latour, vous restez avec nous. On ne fait que commencer pour voir ensemble s'il est vraiment possible d'arrêter de fumer pour de bon. On va détailler quelles sont les méthodes qui fonctionnent le mieux et les leviers de réussite qu'il faut impérativement enclencher pour y parvenir. Alors, on ne dit pas que c'est facile, hein, mais on se donne une chance ce matin. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans sa tête, dans son corps et dans ses poumons ce matin, puisque c'est notre question du jour. Peut-on arrêter de fumer pour de bon?
Alors pour nous aider à y voir plus clair dans les mécanismes déjà de cette addiction, puisqu'appelons un chat c'est une maladie, une addiction, le tabagisme, vous êtes notre invitée ce matin, Nathalie Latour, vous êtes déléguée générale de la Fédération Addiction. Alors une addiction, c'est une maladie ou pas? Parce que moi je me rappelle quand je fumais, j'avais pas l'impression que c'était une maladie, j'avais surtout du plaisir en fait. Maintenant j'en ai beaucoup plus sans tabac, mais est-ce que c'est une maladie?
C'est une maladie. En tout cas, c'est quelque chose qui fait que la personne perd le contrôle. et que c'est un élément répétitif. Et on a beau se dire qu'on n'a plus envie de fumer ou qu'on n'a plus envie de consommer, en fait, c'est plus fort que soi. Donc oui, il faut se faire, en tout cas, essayer de se faire accompagner, de sortir de ce mécanisme. Pour certains, c'est important, effectivement, de le dire, bah, c'est une maladie, parce que c'est quelque chose qu'on nomme et qu'on peut travailler dessus pour essayer de s'en sortir. Pour d'autres, ils préfèrent dire bah, c'est un ensemble de choses, dont une maladie, mais aussi en lien avec des comportements sociaux, etc. Je pense que ce qui est important, c'est que chacun fasse le point et se dire que oui, il est possible d'arrêter de fumer.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que la consommation des Français restait stable, enfin ça avait baissé avant les années 2020 et puis c'est un peu remonté. On reste quand même à un niveau élevé hein, de fumeurs dans l'Hexagone puisque vous avez cité le chiffre de 10 millions. Ça se passe comment ailleurs dans les autres pays? Est-ce qu'ils font mieux que nous?
Ben, y a quelques pays qui font mieux que nous, c'est-à-dire que nous on a commencé à s'y mettre plus tardivement, c'est pour ça qu'on commence à avoir des bons résultats mais qu'il faut surtout tenir. Bon, y a un pays qui est emblématique, hein, qui est l'Australie, hein, qui a été le premier à mettre en place le paquet neutre et un certain nombre de mesures.
Il y a combien de fumeurs là-bas?
Ah, c'est une très bonne question, mais beaucoup moins qu'en France.
Ça, c'est sûr, proportionnellement.
Beaucoup, beaucoup moins qu'en France. Et c'est vrai que c'est aussi des exemples comme ça qui ont permis d'enclencher une politique beaucoup plus ambitieuse en France.
Comment on a réussi en France? Vous avez cité le paquet neutre, mais le prix aussi, ça compte parce que ça coûte de plus en plus cher hein, de fumer, c'est bien ça. Combien ça coûte aujourd'hui? D'ailleurs, moi, je ne sais même plus combien coûte un paquet de cigarettes.
C'est 10 euros et l'augmentation, elle a été avancée en mars 2020. Elle aurait dû avoir lieu un peu plus tard. Oui, ce qui fonctionne, en fait, c'est une série de mesures. C'est-à-dire que vous allez avoir des mesures qui vont être sur l'attractivité du produit. Donc, on va réduire l'attractivité du produit en augmentant le prix, en travaillant aussi sur la question bah, du marketing. Donc, le paquet neutre en fait partie, limiter la publicité. Donc, ça, c'est des éléments socles. C'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, derrière, il faut aussi avoir des campagnes qui vont plutôt agir sur la question de la motivation, puisqu'on a vu que les approches motivationnelles
positives en plus.
Positives,
hein, c'est ça, ouais.
Exactement, pas culpabilisantes, mais plutôt qui donnent envie de trouver ses propres motivations, fonctionnent. Il faut un relais de proximité, c'est-à-dire pouvoir trouver des dispositifs d'appui, on y reviendra, et puis faire aussi du travail d'aller vers, c'est-à-dire pour certaines populations, aller vers elles et leur proposer un certain nombre de choses.
Alors, si on reprend ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de fumeurs chez les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mmh. Alors, comment vous expliquez que d'un côté, le prix augmente, donc ça devient très très cher et parfois presque inaccessible, et pour autant, les gens qui ont le moins de moyens sont les plus fumeurs?
Parce que pour ces catégories sociales, c'est presque un des derniers plaisirs qui leur reste. C'est quelque chose aussi qui est assez fort en termes de communauté, parce que vous avez une proportion plus importante de personnes et on sait que cette dimension sociale, cette dimension identitaire du tabac a une place importante. Il y a aussi tout ce qui est lié au stress, à des conditions de vie où on a moins peut-être la possibilité de se projeter, c'est-à-dire qu'on vit un peu au jour le jour. Et c'est vrai que la question du prix, elle a un impact très fort dans les pays à revenus élevés, où on peut effectivement réadapter. C'est pour ça qu'il faut muscler certaines actions en direction de ces populations pour pas qu'elles aient encore plus à subir, entre guillemets, le prix du tabac. Ouais.
Qu'en disent les enfants? On en a entendu quelques-uns dans le micro-trottoir de Clément Lanoux juste avant. Je trouve que c'est assez révélateur de, en tout cas, l'objectif qu'ont aujourd'hui les addictologues, les spécialistes de la lutte contre le tabac. Ils disent demain, enfin dans quelques années, on aura une génération totalement sans tabac. Ce qu'on a entendu, ça a l'air de donner de l'espoir quand même. Les enfants ont conscience hein, aujourd'hui.
Les enfants ont conscience. L'objectif, c'est dans la politique publique, c'est d'ici 2030, une génération non fumeur, en fait, arriver à ça. Oui, ça donne espoir et on voit bien justement entre le tabac et l'alcool à quel point justement le fait d'avoir mis le paquet sur la question du tabac et de commencer à changer son image a un impact sur les enfants. Là où il faut qu'on continue à travailler, c'est sur l'ensemble des substances, parce que voilà, sur la dangerosité, mais surtout, on a vu dans les témoignages la question de l'influence des pairs. Ça reste encore assez fort, cette question du groupe, de la pression du groupe. Donc on implante aujourd'hui un certain nombre de programmes, ce qu'on appelle basés sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire comment on fait face à un groupe, comment on a confiance en soi, etc.
Comment on dit non à la première cigarette.
Comment on dit non à la première cigarette, et qu'il faut qu'on soit un peu plus ambitieux, mais qui commence à bien avancer, et il faut y aller.
Alors on voit aussi la popularité des autres produits du tabac, les cigares, les cigarillos, le tabac à pipe, à mâcher. On pourrait aussi parler de la mode de la chicha. C'est assez inquiétant, non? Qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire que c'est la stratégie d'une industrie qui s'adapte forcément, on lui contraint une partie de son marché, donc elle s'adapte en multipliant d'autres produits. Donc il faut en même temps toujours continuer à informer les personnes, regarder là aussi sur les mesures fiscales, sur les mesures réglementaires qui limitent l'accès. Mais oui, c'est l'ingéniosité de l'industrie du tabac.
Puisqu'on parle de la chicha et qu'on a entendu des enfants tout à l'heure, là-dessus, effectivement, il y a encore du travail à faire. On est d'accord, la chicha, qu'elle soit à la pomme, à la cerise, à tout ce qu'on veut, elle est aussi dangereuse, voire plus que la cigarette.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un mode de consommation qui est plus fort en termes de ce qu'on peut avoir dans les poumons, etc. Donc, il y a beaucoup de travail de prévention et de réduction des risques à faire.
Alors, je vous propose qu'on essaie d'essayer d'arrêter de façon positive. Hein, pour tous les fumeurs qui nous écoutent, je suis moi-même fumeuse.
Vous êtes motivée, je crois, Julia, plus que jamais.
Je veux arrêter. Alors, comment on fait pour arrêter de fumer? En fait, avant de savoir comment arrêter, quelles sont les bonnes raisons? Est-ce que vous pouvez nous les énumérer, que ça rentre bien dans nos cerveaux?
Alors, je dirais que les bonnes raisons... on peut en lister, mais ce qui est hyper important, c'est que chacun trouve ses bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est compliqué d'appliquer à quelqu'un et de lui dire « tu dois arrêter », etc. Bien sûr qu'on peut en parler et dire « alors, c'est quoi les bonnes raisons ?» Les bonnes raisons, c'est prendre soin de soi, c'est avoir pour une meilleure qualité de peau, une meilleure respiration, pour reprendre le sport.
Ça fait vieillir la peau, le tabac. Hein. Ça, c'est un bon argument pour les femmes, par exemple.
Pour les femmes, c'est un argument qui touche. Pour les femmes et les hommes, c'est aussi la question du sport, on est très vite essoufflé, on est moins performant. Selon l'âge dans lequel on est, on commence à prendre conscience qu'il y a des risques pour la santé et que donc peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête. Voilà, il y a tout un ensemble de ne plus sentir la fumée. Souvent, on nous dit « ah, ça pue, ça sent pas bon ». Donc voilà, tous ces éléments-là.
Nous, on le sent même plus, mais les autres le sentent.
Mais vous sentez quand même bon, Julia. Merci. Je ne sais pas ce que vous faites. En tout cas, le tabac, ça ne se sent pas. Mais vous allez arrêter, justement.
Je vous le promets.
Nathalie Latour, est-ce qu'il faut que Julia et tous les auditeurs qui nous écoutent, qui sont encore fumeurs aujourd'hui, qui souhaitent arrêter, est-ce que c'est important de fixer une date? Moi, je m'en étais fixée. C'est une, celle du mois sans tabac, le 1er novembre. Est-ce que Julia Vignali doit se fixer une date?
En tout cas, se fixer une échéance ou quelque chose où on se dit « Allez, je vais essayer de m'y tenir et de m'engager, et notamment pour continuer à travailler sur ses motivations, sur ses motivations pour tenir en fait, au moment où se sera fixée l'échéance. » C'est vrai que l'échéance, alors ceux qui veulent commencer dès demain, surtout n'hésitez pas.
Voilà, allez-y.
Bien évidemment.
Le 1er novembre, ça donne le temps de se préparer.
Voilà, 1er novembre, ça donne le temps. Et c'est vrai que le fait d'être aussi en lien avec une campagne, ça permet vraiment de garder ses motivations et de montrer qu'on n'est pas seul en fait, dans cette entreprise.
Moi, je serai votre coach, promis, je vais vous motiver.
Mais merci beaucoup. Très bien de se motiver mutuellement.
Justement, parce que Mélanie, elle a arrêté de fumer en le criant sur tous les toits. Elle disait, ça y est, j'arrête. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez préconiser, d'en parler autour de soi avant d'arrêter pour, entre guillemets, être obligée de tenir ses promesses?
Vous venez de le dire à quelques personnes, là,
oui,
Julia. Donc maintenant, vous êtes engagée.
J'ai pas dit quand. Je le ferai le 1er novembre. À partir du 1er novembre, et j'espère que vous serez nombreux à me suivre et à faire pareil, j'arrête la cigarette.
Très bien.
C'est enregistré.
On vous suivra et on vous motivera avec plaisir. Mais oui, la question des réseaux sociaux, là, encore une fois, ça dépend des personnes. Mais pour un certain nombre de personnes, cette question d'être en lien avec d'autres et sur les réseaux, Mélanie disait « Ah, mais moi, c'était un peu égoïste ». Mais ce n'est pas qu'égoïste, c'est-à-dire que ça participe aussi à ce que d'autres se rendent compte que c'est possible. Et c'est comme ça qu'on crée des groupes et qu'on se motive. Et comme vous le disiez, on peut un peu plus difficilement lâcher.
Quand on s'est engagé auprès de tous ces réseaux sociaux. Voilà.
Et puis la communauté nous motive.
Bien sûr.
Et on est d'accord qu'on est arrêté plusieurs fois. Moi, c'était la cinquième tentative, et j'espère que c'était la bonne. Mais Julia aussi, vous avez déjà essayé. On est d'accord, en moyenne, pour y arriver définitivement, il en faut plusieurs de tentatives.
Oui, pour des personnes, ça va marcher d'un coup, et pour d'autres, il en faut plusieurs. Donc,
c'est cinq en moyenne pour y arriver définitivement.
Voilà, en fait, il ne faut surtout pas se démoraliser, et finalement, plus on essaye, et plus on a de chances d'y arriver. Et moins on essaye, forcément, moins on a de chances d'y arriver.
Dernière petite question, si notre conjoint fume, on arrête ensemble ou c'est une histoire très perso?
Alors, c'est une histoire perso, mais ça peut être une motivation à deux. C'est-à-dire que si les conditions se réunissent pour les deux, c'est quelque chose qui peut être effectivement extrêmement aidant de le faire ensemble. Mais si l'autre n'est pas prêt, il faut l'accepter, il faut commencer son challenge.
Tout seul, avec
sans
ses collègues.
Sans lui ou sans elle.
Allez, Nathalie Latour, on reste encore un peu ensemble. Il y a encore beaucoup de choses à dire, de conseils à donner pour aider ceux et celles qui souhaitent en finir bientôt avec le tabagisme. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre et au contraire, comment multiplier les chances d'y arriver? On vous dit tout dans quelques minutes. Alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Le tabac, c'est à vous.
On en viendra tous à bout. Le tabac,
c'est oui, le tabac, c'est à bout. Donc un extrait du film Le Paris. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre magazine bien-être, mieux vivre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, fumeurs ou non. Alors ce matin, notre objectif à Julia et moi, c'est de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour arrêter le tabac ou même, pourquoi pas, encourager un proche de la bonne façon pour qu'il se lance. Je vous encourage, Julia, je suis derrière
merci,
vous.
Merci, merci. Et moi, j'encourage tous nos auditeurs parce que dans cette émission, on vous aide à être mieux avec vous, mais aussi avec les autres. Et l'idée, c'est de vous montrer le chemin. Mais attention, si c'est votre souhait, vers une vie quotidienne sans tabac. Alors pour en parler, elle est toujours avec nous, Nathalie Latour. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fédération Addiction. Alors l'arrêt du tabac, ça se prépare, on l'a dit juste avant. Mais est-ce que ça peut fonctionner d'y aller progressivement, de diminuer déjà le nombre de cigarettes tous les jours?
Alors ça, c'est pareil, ça dépend des personnes.
Moi, ça n'a jamais fonctionné. Hein.
Voilà, il y a des personnes... En fait, vraiment le credo qu'il faut dire, c'est qu'il faut que chacun trouve ses motivations et trouve l'approche qui lui convient le mieux. C'est sûr qu'en termes d'impact sur la santé, il faut mieux arrêter tout que diminuer. Cependant, pour des personnes pour lesquelles le pas, ils se disent « j'y arriverai jamais » et je me sens plutôt de dire « je vais passer de 15 cigarettes à 10 cigarettes », eh bien, il faut faire ça. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut se faire conseiller, parce qu'on aura des bénéfices à réduire sur la question de la respiration d'un certain nombre de choses, et ça met dans un cercle vertueux de dire « je suis capable de diminuer, j'en ressens, je commence à en ressortir des bénéfices », et donc derrière, à terme, de pouvoir arrêter complètement.
Oui, ça doit dépendre des personnalités aussi. Hein,
et complètement. Même se dire « tiens, je vais en fumer que deux qui resteront mes cigarettes plaisir », on s'y accroche comme un talisman parfois à ces deux petites clopes, mais on est d'accord, deux cigarettes, c'est pas... pour la santé, les mêmes bénéfices que zéro cigarette. Il faut viser le zéro tabac.
Il faut viser le zéro tabac. Vraiment, sur tout ce qui est impact de moyen long terme, mais il faut viser le zéro tabac. Et c'est important de le dire, mais encore une fois, il ne faut pas que, du coup, les personnes qui ne se sentent pas de cata d'arrêter tout de suite, de disent bah, « du coup, je laisse tomber ».
Ah ben non.
Et c'est toujours mieux de réduire, mais sur un impact à moyen long terme, il faut arrêter.
Il faut arrêter. Alors justement, comme on a décidé d'arrêter, on va commencer à détailler l'intérêt et l'efficacité des différents moyens d'aide au sevrage. D'abord, il y a évidemment tous les substituts nicotiniques comme les patchs, les gommes. Ils ont vraiment prouvé leur efficacité, ces produits ?
Oui, ils ont vraiment prouvé leur efficacité. C'est presque 50 à 70% d'efficacité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont complètement remboursés par la Sécurité sociale, que même pendant la crise, ils étaient accessibles sans ordonnance en pharmacie. Donc maintenant, il faut avoir une ordonnance. Mais il y a plein de...
Pas que de médecins d'ailleurs. Hein. Ça peut être
exactement.
D'une infirmière, d'une sage-femme.
Complètement, voilà. D'un kiné, même du médecin du travail, etc. Donc, c'est le moyen, on va dire, number one. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'allier à d'autres approches dont on peut parler. Parce que, encore une fois, il faut que chacun se sente à l'aise avec la technique qui va l'aider à arrêter.
Pour les plus gros fumeurs, on va dire les plus gros accros au tabac, on peut même les combiner. C'est bon à savoir, c'est pas dangereux de mettre un patch et puis parallèlement de mâcher des gommes à la nicotine. Ça, c'est possible. Hein.
C'est possible. Et ce qui est important, c'est justement de se faire accompagner par quelqu'un à distance ou en consultation. Parce que là aussi, il y a beaucoup, la majorité des personnes s'en sortent seules. Mais le fait d'être accompagné par un professionnel, en fait, augmente les chances d'arrêt. Et donc, vous allez pouvoir aussi bénéficier des conseils de la personne qui vous accompagne.
Et ça peut être gratuit. Hein. Moi, je le sais, j'ai testé sur Tabac Info Service. Ils sont à l'écoute, ils sont là, ils nous conseillent
39,
autant de fois que vous en aurez besoin.
Complètement, complètement. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter.
Évidemment. Alors, vous parliez d'aide aussi autre que les substituts. J'imagine que vous pensiez peut-être à l'hypnose. À quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait nous aider?
Ben voilà, il y a toutes les techniques. Alors, ce qu'on appelle les techniques cognitivo-comportementales, les TCC, qui vont plutôt aider les personnes qui, elles, se disent à regarder dans quelle situation elles ont envie, elles ont des poussées d'envie de cigarettes, comment elles les consomment, etc. Et du coup, travailler sur ces mises en situation. Il y a effectivement les thérapies alternatives. Donc, beaucoup, on parle de l'hypnose, de l'acupuncture, de la sophro, de la pleine conscience. Tout ça, encore une fois, vous trouvez plein d'infos sur Tabac Info Service là-dessus. Et il faut voir ce qui correspond, en fait, à ce que nous, on recherche et ce qu'on a envie.
L'idéal, c'est vraiment d'avoir une prise en charge et un accompagnement totalement personnalisé pour vraiment mettre toutes les chances de son côté. On a une question sur le 3921, notre répondeur, de Samia, qui demande si elle a du mal à l'arrêter, puisqu'apparemment, elle est une grosse fumeuse et qu'elle a besoin de patch pendant 2 ans. Est-ce que ça sera remboursé pendant 2 ans?
Bah, bien sûr.
Elle anticipe déjà en avoir besoin pendant 2 ans. Oui. Je vous rassure, Samia, sûrement que ça ira mieux avant ça.
Avant, il y avait un plafond qui était mis à 150 €. Et en fait, ce plafond, il a sauté. Donc maintenant, il y a vraiment une volonté d'aider sur la durée qu'ont besoin les personnes. Donc non, non, il y aura pas de, elle
pas
sera
de limite.
Pas stoppée. Et elle verra ça avec le professionnel de santé qui l'accompagne.
Il y a une autre méthode pour cesser le tabac, c'est la cigarette électronique. Alors sur ce dispositif, sur Internet, on lit tout et n'importe quoi. Mmh. Même la position de l'OMS n'est pas claire. Mmh. Quel est l'avis des professionnels de l'addiction sur cet outil aujourd'hui, en 2021?
Oui, effectivement, c'est compliqué pour les personnes de s'y retrouver parce qu'il y a pas mal de polémiques. Alors nous, notre position, elle suit celle du Haut Conseil en Santé publique, hein, qui disait que ça peut être un moyen justement de réduire ou d'arrêter. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas toutes les études sur la nocivité de la vape. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est quand même 95% moins nocive que le tabac.
Pour un fumeur, c'est déjà bien, moi, je trouve.
Bah, c'est déjà bien. Et là aussi, nous, on est beaucoup sur, à partir du moment où les personnes s'en emparent, il y a quand même plus de 700 000 personnes qui ont arrêté en fait, de fumer grâce à la vape. On considère, dans le domaine des addictions, que c'est quand même les personnes concernées qui ont beaucoup de ressources et de solutions pour s'en sortir. Donc, si c'est quelque chose qui fonctionne, eh bien, il faut s'en emparer, d'autant que c'est quand même documenté, étant moins nocif. Et le Haut Conseil en Santé publique devrait d'ailleurs sortir un nouvel avis d'ici sous peu.
On est donc avec la cigarette électronique dans la réduction des risques et en plus souvent, ben ça c'est personnel on va dire, dans le plaisir je trouve. Alors on donne la parole à nos auditeurs ici, on vient de le dire justement, on a cette question de Monique sur notre répondeur. Monique, elle fume depuis 25 ans dit-elle et demande s'il vaut mieux se procurer une cigarette électronique sur internet ou dans une boutique spécialisée.
Bah écoutez, ce qui est bien dans la boutique, c'est que sur la question de la vape, il y a quand même des dosages, des façons, il y a des vapes différentes, etc. Donc c'est quand même bien de pouvoir se faire conseiller. Il y a aussi, si ça l'intéresse, des groupes d'entraide. Sovape met en place des groupes d'entraide et ça fonctionne très bien. D'ailleurs aussi pour les personnes qui veulent totalement arrêter de fumer, les groupes d'entraide, c'est aussi un moyen.
Là aussi, on est dans le collectif, encore
dans
une fois.
Dans le collectif,
ça peut aider vraiment.
Des groupes fermés sur Facebook, etc. Et donc, elle peut bénéficier d'un certain nombre de conseils aussi d'autres personnes qui utilisent la vape.
Alors Nathalie Latour, on a aussi Mehdi sur Twitter qui demande s'il y a toujours des médicaments pour arrêter de fumer, si oui, lesquels? Et il demande surtout s'ils n'ont pas des effets secondaires encore plus embêtants que le tabac lui-même.
Ben oui, il y a eu le Champix qui a été pas mal décrié parce qu'il était avec une suspicion importante d'effets secondaires et notamment de troubles dépressifs. Donc là, il y a des études qui ont été publiées. Il est maintenant complètement remboursé par la Sécurité sociale, donc il fait partie de la palette en fait, des médicaments. C'est après à peu près une semaine, 15 jours pour avoir des effets. C'est des traitements qui durent 3 à 6 mois. Mais là aussi, c'est pareil. Il faut en parler avec son médecin.
Et être accompagné, hein, vraiment.
Être accompagné, regarder est-ce qu'on met ça en première intention ou les substituts nicotiniques. Tout ça, ça fait partie de la prise en charge avec un professionnel de santé. Mais oui, il existe des médicaments.
Bon, parlons du positif et de ce qui va vraiment peut-être motiver encore ceux qui doutent pour le moment sur un arrêt du tabac. Imaginons, j'ai arrêté de fumer depuis 2 jours. Je crois que c'est important de le rappeler parce que les bénéfices du sevrage, en fait, on va en avoir très, très vite. Dès qu'on arrête, en fait.
Très, très vite. C'est-à-dire qu'effectivement...
Écoutez bien, Julia.
Dans,
oui, j'écoute.
On récupère vraiment une grande partie des capacités respiratoires. Et puis, on a cette question du goût aussi qui revient, du goût, de l'odorat.
Bon, du coup, on mange beaucoup parfois.
oui. Voilà, alors ça, c'est un des effets parfois qui bloque la peur de la prise de poids. Encore une fois, je dis que ce n'est pas automatique qu'on prenne du poids. C'est des choses qui peuvent aussi se réguler parce qu'on peut compenser avec un peu plus d'activité sportive ou justement de détente et de choses comme ça. Donc, il ne faut pas que ce soit la prise de poids quelque chose qui empêche. Au bout de quelques semaines, bon, tous moins, on a plus d'énergie. On a une plus jolie peau.
Ça, c'est motivant.
Voilà.
C'est super.
Au bout d'un an, on a un risque d'accident vasculaire cérébral qui est équivalent à une personne qui n'a jamais fumé. Donc, c'est quand même hyper important.
À peine un an après, c'est
ouais, bon. Oui. Et puis, l'infarctus du myocarde est divisé de moitié. Et au bout de 10 ans, en fait, les risques de cancer, de la bouche, du poumon, etc. ont vraiment diminué. Et l'espérance de vie, elle se rapproche des personnes qui n'ont pas fumé. Et au bout de 15 ans, je crois que vous avez récupéré. Donc ça vaut le coup quand même, parce qu'il y a des effets à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc c'est possible en fait.
Et c'est très motivant. Alors pour ceux qui se disent, bon, je vais tester l'expérience en novembre, comme moi par exemple, pour le mois sans tabac. Donc déjà, si on tient un mois comme défi, c'est vraiment une chance d'arrêter pour de bon ou...
Ça multiplie par 5 les chances d'arrêter.
Ah. Pour de bon.
Ouais. Donc, c'est
donc fixez-vous un mois dans la tête, le mois de novembre, on le fait ensemble. On vous aidera d'ailleurs dans cette émission, évidemment.
Et
c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté. 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer, c'est incroyable.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a eu un investissement important des pouvoirs publics dans ce type de campagne, parce que c'est prouvé scientifiquement que ça a un impact sur l'arrêt du tabac.
Bon, pour terminer, Nathalie Latour, j'en profite puisque c'est un sujet d'actualité. On parle beaucoup en ce moment des problèmes liés à la consommation de cannabis en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la dépénalisation addiction, c'est finalement vraiment ce que vous prenez, vous, à la Fédération Addiction ?
Ben écoutez, nous, le constat qu'on fait, hein, donc la Fédération, ça rassemble plusieurs milliers de professionnels. D'ailleurs, la Fédération n'est pas que nous. Hein. Il y a un consensus des addictologues, entre guillemets, sur cette question-là. C'est qu'on a une politique qui n'a pas changé depuis 50 ans. Et que souvent, la guerre au cannabis ou la guerre à la drogue, ça devient la guerre aux personnes. Et ça, c'est vraiment ennuyeux parce qu'on voit bien que ce qui aide les personnes, c'est un accès aux soins, c'est de ne pas être stigmatisé, c'est de dire ben, j'ai besoin d'aide. Donc c'est vrai que nous, on est pour la dépénalisation, ce qui veut dire d'arrêter en fait de sanctionner l'usage simple de cannabis. Mmh. Et on est aussi pour réfléchir à un modèle de légalisation, c'est-à-dire quelque chose où on régule l'accès du marché qui sont pour ces produits qui ne sont des produits pas comme les autres.
Très bien. Merci beaucoup Nathalie Latour d'avoir été à nos côtés ce matin pour répondre à nos questions et à celles de nos auditeurs pour une vie bientôt sans tabac. Dans un instant, Julia, on change de sujet. On va passer à la séquence tendance de ce magazine.
Et oui, Mélanie, nos deux chroniqueurs du jour vont nous rejoindre dans un instant. Soizic Belin, d'abord, va nous faire découvrir une tendance, un lieu insolite, un bar à fantasmes. Oh. Et oui, certains sont prêts à payer pour aller au bout de leurs désirs. Et puis, il y aura aussi Philippine Darblé, notre spécialiste art de vivre, qui va nous dire ce qu'il faut penser de ces nouveaux supermarchés en ligne. Un chouette programme à venir. Restez sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre nouveau magazine positif pour vous aider à mieux vivre votre quotidien et avec les autres aussi. À présent Mélanie, on va débuter la séquence tendance de ce magazine.
Et oui Julia, c'est parti. Elles sont là comme tous les jours, le must des chroniqueuses tendances de France. Aujourd'hui d'ailleurs plutôt, c'est vraiment deux chroniqueuses qui sont en studio avec nous. D'abord vous, Philippine Darblé, vous êtes notre experte art de vivre dans Bien fait pour vous. De quelle tendance vous allez nous parler ce matin?
Je vais vous parler de nouvelles applications en ligne qui vous permettent de faire vos courses encore plus rapides et encore plus responsables.
Ah, ça c'est chouette. Merci Philippine. Mais avant cela, c'est au tour de Soizic Belin de nous parler ce matin d'une tendance insolite que vous avez testée d'ailleurs, je crois.
C'est ça.
Une tendance coquinette. Le bruit court, Soizic, que vous avez passé votre week-end dans une boîte à striptease. Sérieusement ?
Alors, pas tout à fait. C'est un peu plus subtil que ça, un peu plus nuancé. Je suis allée découvrir un nouveau lieu réservé aux adultes, un bar à fantasmes. Alors, bar à thème, il y en a plein, des bars à jus, des bars à vin, des bars à chat, mais ce type d'endroit est unique en son genre. Je vous propose que nous fassions ensemble une petite visite des lieux. Située dans le 2e arrondissement de Paris, une petite porte rue Marie Stuart nous mène au sous-sol. Les lumières sont tamisées, même en pleine journée, parce que la sensualité du lieu nécessite cette sorte d'intimité que seule la pénombre permet. Il y a un coin bar, quelques chaises hautes, un comptoir, et derrière celui-ci, une jeune femme peu vêtue qui m'offre une coupette. C'est une sweetie.
Une sweetie ?
Alors oui, ce sont les employés du lieu. Le bar s'appelle Sweet Paradise et il est une extension de la boîte d'organisation de fantasmes My Sweet Fantasy.
Non mais attendez, une boîte à fantasmes ? Mais que de mystère, décidément.
Alors le concept est simple. Vous rêvez d'une mise en scène dans laquelle vous vous faites arrêter en pleine rue, menotté et jeté en tôle en attendant un procès.
Ah mais carrément.
Voilà. My Suite s'occupe de tout pour vous organiser, vous échafauder le plus torride et le plus crédible des scénarios. Alors si vous souhaitez aussi une soirée cocooning avec votre amoureux, qu'une inconnue vienne vous lire quelques récits érotiques, enfin bref, tout est possible, My Suite est encore là pour vous. Cette boîte d'événementiel réalise, compose, fait du sur-mesure pour vous donner vie à vos envies les plus inavouées. Alors j'ai rencontré Fleur Chérie, elle est copropriétaire du lieu et aussi co-créatrice du concept.
En fait, chez My Sweet Fantasy, ce qui était vraiment important pour nous, c'est que les gens qui viennent nous voir se sentent vraiment accueillis et écoutés quand ils nous parlent de leurs fantasmes, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Nous, on est déjà un lieu avant tout qui est non jugeant sur la sexualité des gens. On est vraiment une bulle de bienveillance. Et on sait que parfois, beaucoup de personnes qui viennent nous voir ont honte souvent de nous raconter ce qu'ils sont en train de nous raconter. Certains l'assument et on trouve ça très chouette. En tout cas, nous, on permet ça. On permet, ça ne veut pas dire qu'on permet tout. Évidemment, il y a des limites, comme dans chaque activité. Nous, les limites, elles sont liées à la prostitution. Donc, il n'y a jamais de contact sexuel avec nos sweeties.
C'est important de le préciser.
Bah oui.
Voilà, parce que les femmes dans ce bar, qui est aussi du coup une salle de spectacle, ce sont des danseuses, des étudiantes, des comédiennes. Les profils sont divers et variés, donc ces jeunes femmes se dévêtissent, elles sont nues. Elles proposent des petits spectacles d'une vingtaine de minutes. Et ici, tous les corps sont célébrés, tous les âges également. C'est finalement la femme qui est sublimée. Se déshabiller n'est pas honteux, car l'effeuillage est fait avec classe, talent et originalité. Les sweeties sont ce qu'on pourrait imaginer être l'incarnation de fantasmes. Il y en aura donc pour tous les goûts. Et vous l'aurez compris, mais je permets je me permets d'insister parce que c'est très très important, toujours dans le respect.
Bon, c'est qui les clients de ce lieu? Parce qu'on a l'image de vieux libidineux en blouson de cuir qui se pointent incognito, c'est pas ça j'imagine.
Non, non, pas du tout. Ici, les clients se conjuguent aussi bien au féminin qu'au masculin. Il y a même des personnes qui viennent en couple. Hein. Alors, ils ne sont pas honteux, bien au contraire. Assumer ses fantasmes, c'est sain. J'ai échangé avec un client qui est un habitué désormais.
Mais totalement, enfin moi j'ai pas de problème à venir ici, comme je pense d'autres n'ont pas de problème à aller soit dans des clubs échangistes, soit dans des strip clubs en fonction de leur goût. Moi j'ai découvert ça en juin dernier quand ça a ouvert, je connaissais pas du tout cet environnement là. Je connaissais que les clubs de striptease en mode en termes de garçons ou autres. Et je trouve ici quelque chose de beaucoup plus complet en termes de sensualité. On peut venir seul, avec sa femme, avec des amis. Et à chaque fois on trouve beaucoup de sensualité, d'érotisme différent, alors que dans d'autres endroits on va trouver toujours la même chose.
Alors je finirai sur cette question, le fantasme doit-il se réaliser ou au contraire doit-il demeurer tapis secrètement dans notre esprit? Chacun aura sa réponse et si vous souhaitez sauter le pas, les bars à fantasmes sont là pour vous servir car si le concept cartonne, il ne tardera pas à prendre de l'ampleur.
Ah, merci beaucoup Sophie,
pour cette découverte au pays des fantasmes. Ça fait jamais de mal hein, de rêver un peu, après à tout chacun de décider si ça doit rester de la rêverie ou de la vraie vie bien évidemment. Alors c'est à votre tour à présent Philippine, avec une tendance qui pourrait sauver nos journées bien remplies.
Alors, moi, c'est moins sexy, non ?
C'est un retour à la réalité qui va être
dur.
Certain.
Ouais. Mais agréable, j'en suis sûre.
Agréable, utile. Mais alors vraiment, voilà, comme ça, il y a un peu de tout ce matin.
Ça va nous aider pour nos journées bien remplies et ça, c'est très important aussi.
Exactement, voyons le côté pratique. Bon, je vais vous faire beaucoup moins rêver parce que je démarre avec une situation qu'on a, je pense, tous connue. Il est 19h45, on rentre après une grève des transports. Je vous ai dit, je ne fais pas rêver ce matin. Je vous laisse imaginer, on est tous collés serrés dans le métro. Bref, évidemment, pas le temps de passer au supermarché. Il y a encore le dîner à faire pour soi, pour deux, trois, quatre, bref. Il n'y a plus qu'un fond de produits vaisselle sur lequel on appuie comme un malade, il n'y a pas de légumes, tout le monde est crevé et oh non, il n'y a pas de café.
Oh non.
Bon, quand on n'a pas de petit commerce de proximité à portée de main, Deliveroo et Uber Eats, c'est vrai, des pannes, mais entre le côté responsable, le budget et la santé, ben, c'est pas toujours la solution. Vous allez me dire, c'est vrai, on peut faire ses courses en ligne depuis longtemps, mais avec les créneaux sur 4 heures, dispo en semaine, dans 10 jours, ben, ça arrange pas tout le monde. Hein. Bon, évidemment, je caricaturise, mais comment fait-on pour les urgences? Eh bien, c'est là qu'apparaissent en masse sur le marché français des nouveaux acteurs de la livraison de dernière minutes. Et leur promesse est simple, ce sont des courses plus rapides, plus faciles et plus responsables.
Bon, comment c'est possible ça, Philippine?
Ouais, là on se dit c'est un petit peu de la magie, mais en fait c'est dû à deux innovations principales. La première, c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais qui s'appelle les dark stores, qui sont en fait des entrepôts, c'est très simple, hein, des entrepôts de stockage d'où sont préparées et envoyées les commandes. Donc il y en a un peu partout dans toutes les villes. Et puis surtout, c'est des marques, il y a des nouvelles marques qui ont créé des applications très très simples et efficaces. Et je vous ai sélectionné aujourd'hui quelques nouveaux venus. La première appli dont je voudrais vous parler s'appelle Dija, D-I-J-A, et qui vous promet des courses en 10 minutes.
Oh là !
Ouais, 10 minutes, et j'ai fait l'essai sur mon portable, effectivement, 10-15 minutes. Ça
vous avez eu votre produit vaisselle.
Et j'ai eu mon produit vaisselle en 10 minutes. Non, c'est pas une blague, c'est ça qui est quand même assez hallucinant. Alors en France, il ne dessert pour le moment que Paris et bientôt Lille.
Mais est-ce qu'il livre en journée ?
Eh ben, c'est une bonne question. Effectivement, il livre en journée, mais il livre même jusqu'à 2h du matin, donc de 8h à 2h. Et du frais, des snacks, même de la parapharmacie, du bio, de quoi faire des recettes. Les plus de cette appli, c'est que les livreurs sont salariés, donc ça, ça veut dire formation et assurance pour eux. Et ils font des partenariats avec des marques locales, donc du café torréfié près de chez vous, etc. Il y a une autre appli qui s'appelle Gorillaz, qui vous promet là aussi vos courses en 10 minutes, qui dessert un peu plus de villes en France, Bordeaux, Lyon, Nice, Lille et Paris, de 7h à minuit, donc toujours des créneaux quand même vachement larges. Et on tourne toujours plus ou moins autour du même type de produit, quoi, de l'urgence au frais. Et les plus de cette appli, mais c'est aussi de faire des partenariats locaux, mais c'est une marque qui a décidé de ne pas faire de plastique et les livreurs sont en CDI à temps plein. Il y a une autre marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cajou, qui est un pionnier en France sur ce modèle, qui vous promet là des courses en 15 minutes, qui dessert une grande partie de Paris, s'approche banlieue Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, de 8h à minuit et jusqu'à 2h autour du week-end.
Pas mal. Hein,
on est toujours les mêmes types de produits. Les plus, bah, c'est l'appli qui couvre le plus de villes en France et qui a le plus de références. Pour n'en citer que quelques-uns en plus, il y a Kol, K-O-L, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui vous livre votre apéro en 30 minutes jusqu'à 4h du matin le week-end. Everly, qui n'a pas d'entrepôt, pas de dark store, mais qui a bien des, ce qu'on appelle des préparateurs livreurs. Donc ils vont faire vos courses pour vous, si je puis dire, et vous les livrent. Mm-hmm. Et ensuite, vous allez bientôt entendre parler de marques comme Flink et Picnic. Qui sont
Flink,
des...
donc F-L-I-N-K, et Picnic comme un pique-nique, mais, pas en, mais en anglais.
En anglais,
avec
exactement.
Un C à la fin, c'est ça.
Qui viennent de Berlin et des Pays-Bas.
Bon, mais ça, c'est super, Philippine. Mais vraiment, est-ce que ça va couvrir toute la France? Parce que le problème, il est là. C'est que je ne suis pas sûre qu'en campagne, on puisse aller sur ces applis et en 10 minutes, on a le produit liquide vaisselle qui manque.
C'est exactement le problème soulevé. C'est vrai qu'à chaque fois qu'une marque s'implémente sur le marché français, ils visent tout le temps la capitale. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'énormes investissements qui sont en train d'être faits. C'est des, voilà, c'est des applis, des boîtes qui sont soutenues par voilà, plusieurs millions pour certaines. Et donc, ça va permettre à chacune de s'étendre. Après, il y a une autre limite dont on ne parle pas, mais forcément, il faut avoir un smartphone. Tout ça fonctionne sur appli.
Et la 4G qui marche bien aussi.
Voilà. C'est ça. Un peu tout ça. Après, d'un point de vue personnel, je dois admettre que ça m'a enlevé un très gros stress de me dire comment est-ce que je peux bien manger après une longue journée de manière saine sans avoir à commander un plat thaï avec 15 kilos de sucre dedans. Et puis, c'est un choix qui est forcément plus responsable, comme on l'a vu, que certains autres services de livraison. Après, il ne faut pas oublier de soutenir vos commerces de proximité.
Évidemment, alors, évidemment.
Dès qu'on peut, on le fait. Bon, alors, pour des vies à la Speedy Gonzales. Et ben c'est pas mal tout ça. Et surtout, plus d'excuses pour la malbouffe.
Non, bon, plus d'excuses. Mais on peut aussi, là, à midi et demi, vous pouvez commander. Là, si vous commandez maintenant, je pense qu'à la sortie du studio, vous avez vos courses.
Mais vous savez, moi, j'ai un petit plaisir, Mélanie, c'est descendre dans ma rue et aller voir mes petits commerçants et acheter aussi mes courses. Ouais. Ça me fait un peu de compagnie.
On peut cumuler les deux, finalement, hein, je pense. Toutes ces applis, toutes ces nouvelles sociétés, puis à la fois continuer, exactement, évidemment, à encourager le commerce de proximité.
Oui, parce que vous savez, elle est encore sur le bar à fantasmes, Mélanie, alors elle est prostitution, tout ça. On a dit que ça n'était pas de la
Non, du
Mélanie.
Tout, j'ai bien compris.
Oh là là, merci Philippine, merci à vous également Soizy, qu'on vous retrouvera bientôt dans Bienfait pour vous, toutes les deux, pour d'autres tendances qui nous font du bien ou qu'il faut absolument tester. En attendant, Mélanie, place à la santé et au bien-être dans Bienfait pour vous.
Et oui, Julia, dans notre grand dossier santé aujourd'hui, on s'est dit qu'on ne sait jamais, notre sujet au début de cette émission sur l'arrêt du tabac avait peut-être donné quelques sueurs à certains d'entre vous. Donc comme ici, à chaque souci, sa solution, on va s'intéresser à présent au problème de transpiration avec la dermatologue Laurence Netter. Alors à tout de suite sur Europe 1. Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi. Je voulais qu'on revienne aujourd'hui sur ce qui se passe à Nice. La justice accepte désormais d'expulser des locataires de HLM qui se comportent mal. En l'occurrence, une femme et son fils qui commettaient des dégradations et qui a été condamné. Le fils a été condamné à de la prison ferme pour trafic de drogue. Est-ce que c'est une pratique qu'il va falloir généraliser pour vous faire votre propre opinion? J'appellerai le responsable de l'office HLM à Nice. Dans Europe Midi, à 48 heures du début du procès historique des islamistes qui ont participé de près ou de loin à l'attentat du 13 novembre 2015, on écoutera le témoignage de Christophe Molmy. Il était à l'époque le patron de la BRI, les policiers de la BRI qui sont entrés dans le Bataclan pour sauver des otages. On va parler immobilier également dans Europe Midi. Dans plusieurs villes de France, c'est plus intéressant d'acheter son logement que de le louer. Ah bon, dans quelle ville? On verra ça avec Maëlle Bernier qui a réalisé cette étude. Et puis si vous habitez dans l'Ouest, la Bretagne, la Normandie, on parle que de ça ce matin, cette météorite qui a traversé le ciel. On a joint une Brestoise qui va témoigner dans Europe Midi. Elle nous racontera ce qu'elle a vu. Voilà pour le programme, à tout à l'heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure.
Europe 1. 11h30. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30, une demi-heure consacrée à votre santé, votre bien-être. C'est notre mission ici et on vous livre que du positif.
C'est bien résumé, Julia. Alors je le rappelle, dans cette demi-heure dans laquelle on prend encore plus soin de vous et de vos proches, on le fait toujours avec un invité, un expert. Aujourd'hui, c'est la dermatologue Laurence Netter. Elle vient mettre fin dans ce studio au problème de transpiration excessive. Enfin, elle va surtout nous présenter toutes les solutions, Julia, qui existent aujourd'hui pour y mettre fin.
Et puis à midi 20, comme tous les jours, il y aura notre chronique vite fait, très bien fait, notre petit bonus, des conseils supplémentaires encore pour prendre toujours plus soin de vous. Et aujourd'hui, c'est Caroline Veil qui est avec nous. Bonjour. Vous êtes psychologue et vos conseils du jour s'adresseront plus particulièrement à ces couples qui aiment le danger peut-être, car ils travaillent ensemble.
Tout à fait. Parce que ça peut être soit l'enfer, soit le paradis. Hein,
chacun. Vous nous orienterez vers le paradis quand même, Caroline, on espère. On vous retrouve bien sûr dans quelques minutes pour ce focus amour et travail qui sera passionnant, j'en suis certaine. Pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Ah bah oui, c'est vrai qu'il fait chaud en plus, hein, c'est tout à fait d'actualité. Voilà, c'est parti pour une demi-heure consacrée à votre santé, votre bien-être et celui de vos proches. Parce que si le sujet qui va suivre est intime, il peut aussi perturber ou rendre plus compliqué notre vie avec les autres. On va décortiquer ce midi les problèmes de transpiration, mais surtout les solutions pour y remédier, bien sûr, car il y en a des tas, vous allez l'entendre. Alors pour tout nous expliquer sur ce sujet, on accueille à présent le docteur Laurence Netter. Bonjour docteur.
Bonjour Julie, bonjour Mélanie.
C'est pas grave, c'est Julia, mais je vous aime beaucoup.
Julia, je suis désolée, c'est la première fois que je fais
qu'on se rencontre.
Absolument,
tout à fait, je suis ravie
Mélanie,
de vous rencontrer.
J'ai un petit peu l'habitude.
On se connaît déjà, évidemment. Docteur Netter, je rappelle que vous êtes dermatologue à Paris. Alors, on va commencer par un peu de physiologie d'abord, si vous voulez bien. Pourquoi on transpire tous, ça c'est clair, mais que ce soit excessif ou pas, pourquoi transpire-t-on? À quoi ça sert?
Oui, alors la transpiration, c'est une fonction primordiale de l'organisme. Elle sert à réguler la température pour que nous restions à 37 degrés. Quand la température extérieure augmente, eh bien, via le sang, on a des petits capteurs thermiques à la surface de la peau, le cerveau, l'hypothalamus, va recevoir un message comme quoi le corps est en surchauffe. Il va commander la sécrétion de la sueur, qui n'est autre que de l'eau, qui va être sécrétée et déversée à la surface de la peau. Et c'est l'évaporation de la sueur qui va faire baisser la température.
Mais est-ce qu'on en a partout de ces glandes, hein, je crois, qui sont à l'origine de la transpiration? Partout sur le corps, on peut transpirer de partout?
Oui, alors ces glandes s'appellent les glandes sudorales. Mmh. Il y en a de deux types, on y reviendra peut-être après. Ce qu'on appelle les glandes sudorales écrines, on en a de la tête aux pieds, 2 à 4 millions. Donc ce sont des petits amas cellulaires, essentiellement au niveau des mains, des pieds et du visage. Mais on en a absolument partout.
Oui, bon, c'est celle qui pose quand même problème, enfin j'ai l'impression, le plus souvent problème, parce que c'est de là que ça sent pas très bon parfois, c'est sous les aisselles. Pourquoi ça sent mauvais parfois?
Oui, alors comme je vous ai expliqué, on a deux types de glandes sudorales, ce qu'on appelle les glandes écrines, qui servent à réguler la température. Et à côté de ces glandes écrines, on a ce qu'on appelle des glandes apocrines. Ces glandes apocrines, on les trouve dans d'autres régions, qui sont les régions pileuses, elles sont annexées au poil, c'est-à-dire au niveau des aisselles et au niveau des organes génitaux et des mamelons. Et voilà. Et elles sont différentes par leur anatomie, par leur physiologie et même par la composition de la sueur.
Oui, parce que la sueur, vous avez dit, c'est de l'eau, mais l'eau, ça pue pas.
Alors,
normalement.
Alors, cette sueur apocrine est stimulée beaucoup plus par les émotions, le stress et la concentration. Et la composition de la sueur est différente. Elle contient des phéromones qui sont un petit peu comme notre carte d'identité. Quand les animaux se reniflent, c'est un peu pour s'accoupler dans la même espèce. Et c'est ça qui donne cette odeur un petit peu désagréable à la sueur sous les aisselles.
Alors vous parliez de carte d'identité olfactive et vous dites, je crois que ça dépend aussi de notre couleur de cheveux ou de peau.
Oui, parce que ces glandes, elles sont annexées au poil, donc elles vont un petit peu prendre au passage la carte d'identité de vos poils. Et c'est pour ça que, sans faire le moindre sectarisme, eh bien, la sueur n'a pas la même odeur que l'on ait la peau blanche ou qu'on soit roux, c'est-à-dire que la couleur de la peau soit due à ce qu'on appelle de la phéomélanine ou qu'on soit noir. Ce n'est pas tout à fait la même composition de la sueur.
Bon, chacun sa sueur, hein. Voilà. C'est chouette.
Chacun son identité, c'est ça qui est beau dans la vie.
Exactement. On a dit qu'on parlait aujourd'hui des problèmes de transpiration excessive, dans ce qu'on appelle l'hyperhidrose. À partir de quand on parle de cette pathologie finalement?
Alors la transpiration, comme je vous ai expliqué, ça sert à maintenir la température aux alentours de 37 degrés. Quand la quantité de sueur est trop importante et n'a plus aucun lien avec le maintien de la température à 37 degrés, on parle d'hyperhidrose. Hyperhidrose, ça veut dire qu'on est trempé en toutes circonstances.
Et là,
ça
les
soit...
déodorants, les antitranspirants, voilà, ça ne sert fait... à rien, hein, on est d'accord.
Non, ça ne fait strictement plus rien. Ça peut aller jusqu'à...
des litres. Hein.
Des litres d'eau. La moyenne d'une transpiration, c'est 1 litre. Ça peut aller jusqu'à plusieurs litres. Essentiellement au niveau des mains, des pieds, ce qu'on appelle les mains moites, ça peut dégouliner. Et sous les aisselles, c'est un véritable handicap social pour les gens qui souffrent d'hyperhidrose des aisselles.
Évidemment. Alors à partir de quand on considère qu'il faut consulter selon vous? Et d'ailleurs, on va voir qui comme médecin qui est capable de prendre en charge ce genre de problème?
Alors, ça n'est pas une pathologie grave, donc il n'y a pas d'urgence. Simplement, il faut aller voir des médecins qui connaissent les différents traitements. Ce sont les dermatologues, en règle générale. Et on va consulter uniquement quand la gêne, quand on a une gêne. C'est un sujet qui est tabou. On parle toujours d'épilation dans les journaux, de choses très féminines, mais on parle rarement du problème d'hyperhidrose qui touche entre 3 et 5% de la population. Donc, et qui impacte un maximum la qualité de vie.
Bon, docteur Néter, on va passer aux solutions parce qu'il y en a plusieurs qui fonctionnent très bien. D'abord, on va parler des injections de Botox dans les aisselles. C'est ça, comment on fait? Il faut faire plusieurs injections?
Alors, le Botox, c'est un médicament. Tout le monde pense que le Botox ne sert qu'à traiter les rides. Mais non, pas du tout. Ça bloque l'influx musculaire, l'influx nerveux, pardon. Et donc, ça va bloquer la sécrétion de sueur par les glandes sudorales. Donc, au niveau des aisselles, c'est d'une simplicité folle. On prend 2 petits flacons, on fait 10 de petits points très superficiels. L'efficacité est proche de 100%, c'est-à-dire 100% des patients. Et surtout, on ne transpire plus, quelle que soit la température. Et ça n'est pas dangereux, parce que sous les bras, on n'a que 2% de l'ensemble des glandes sudorales. Et en plus, chez les personnes qui viennent nous consulter, elles sont pathologiques. Voilà.
Mais combien ça coûte, ça? Parce que ce n'est pas donné, le Botox. Et ça dure combien de temps toute
la
vie?
Là, il faut questionner. Vous savez que les prix sont libres. Je dirais aux alentours de 500 euros.
Les selles ou les deux?
On me pose toujours la même question. Bah oui. Non, je vais vous traiter l'aisselle gauche et puis vous reviendrez me voir dans 6 mois.
Donc 500
les deux,
euros.
Les deux,
d'accord.
Les deux.
Et ça dure toute la vie, ça, docteur?
Alors non, malheureusement, le Botox a un effet qui est passager et c'est un peu retour à la case départ au bout de 6 mois. On a d'autres solutions qui sont définitives.
Justement,
aujourd'hui.
J'y viens. La deuxième technique, et là, l'efficacité, elle est définitive. Je crois que c'est une machine qui va chauffer la zone sur laquelle on transpire de façon excessive. Expliquez-nous rapidement.
Alors, Mélanie, vous avez raison. On a maintenant une machine qu'on appelle. Alors, on peut citer le de la machine parce qu'elle n'a pas de concurrence, ça s'appelle le Miradry. C'est une machine qui va utiliser des micro-ondes pour aller détruire de façon définitive les glandes sudorales sous les bras. Comme je vous ai expliqué, c'est pas dangereux, on en a que 2% et en plus elles
on
sont
transpirera
pathologiques.
D'ailleurs après, hein, c'est ça.
C'est une petite intervention qui se fait sous anesthésie locale au cabinet, hein, on retourne travailler après et on arrive à diminuer en moyenne la transpiration de façon définitive de 80%.
Ouais, c'est pas mal.
Les glandes sudorales sont très sensibles à la chaleur, elles vont s'autodétruire. Et comme elles n'ont pas de capacité à se renouveler, c'est définitif. Un petit peu comme on utilise le laser pour les poils. Le laser, ça fait chauffer une cible colorée. Et bien, sous les aisselles, ces glandes, elles sont transparentes, elles sont bourrées d'eau. Et ce qui fait le mieux chauffer l'eau, c'est les micro-ondes. Comme quand vous mettez quelque chose dans le micro-ondes. En fait, on agite les molécules.
Et c'est pour toujours, là?
C'est pour toujours.
Mais c'est très cher ou pas?
Oui, c'est une intervention qui est chère, aux alentours de 2000 euros.
Enfin, si c'est pour la vie, ça vaut le coup.
Mais c'est pour la vie, c'est surtout que c'est une pathologie qui est excessivement invalidante.
Bien sûr. Alors, docteur Néter, vous ne bougez pas, on reste encore ensemble. On va continuer sur ces questions de transpiration excessive. Ça s'appelle donc l'hyperhidrose, on l'a compris. De nombreuses solutions existent. Et je le rappelle, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on vous répond. Vous pouvez nous les laisser sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou sur notre répondeur au 39 21. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. Nous sommes toujours en studio avec Julia Vignali. Nous sommes dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et surtout aux problèmes de transpiration ce midi. Parce que bon, transpirer, c'est la vie, mais trop, ça peut la pourrir la vie. Alors heureusement, elle est toujours avec nous pour en parler. C'est le docteur Laurence Néter, dermatologue à Paris. Docteur Néter, on a dit qu'on allait passer aux questions de nos auditeurs. Et donc, on va commencer par celle de Simone en Loire-Atlantique. Elle est sur la page Facebook d'Europe 1. Elle nous demande ce que l'on peut faire pour plus précisément quand on transpire énormément, mais juste des mains. Elle demande si le Botox dont vous avez parlé est recommandé.
Alors, le Botox peut se faire, mais on a toujours des algorithmes. C'est-à-dire qu'on propose les traitements dans un certain ordre, du plus efficace, le moins dangereux, au plus difficile. Donc, pour les mains et les pieds, en première intention, on utilise ce qu'on appelle l'ionophorèse. C'est un petit appareil qu'on peut acheter sur Internet.
C'est les patients qui l'achètent. Hein, c'est les patients qui vous les conseillez,
alors,
vous leur dites...
Il y a des kinés qui en ont dans leur cabinet. Mais vu que c'est un traitement qui ne guérit pas définitivement, il va falloir faire ensuite des séances à domicile. Je conseille toujours de l'acheter. On fait une dizaine de séances pour bloquer la transpiration. On arrive à une amélioration moyenne de 70%.
C'est déjà pas
et
mal.
Et ensuite, oui, c'est des séances qui durent 10 minutes.
À la 10 maison. Minutes pour,
voilà, exactement. Ça picote, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout d'effet secondaire. Et ensuite, une fois qu'on a atteint le niveau maximum d'efficacité, on espace les séances à un rythme d'environ une par semaine. Donc il faut le faire chez soi.
Combien coûte cette machine ?
300-400 euros.
D'accord,
il y a plusieurs marques. Il faut venir consulter un dermato pour qu'on vous
oriente sur la bonne machine.
Voilà. Et si vraiment ça ne marche pas, eh bien là, on peut faire du Botox. La seule chose, c'est que le Botox sur les mains, c'est très douloureux. Oh. Donc la plupart du temps, on fait un bloc pour ne pas... Parce qu'il y a quand même une vingtaine, voire même une trentaine de petites injections
ouais.
Et qu'il y a un petit effet secondaire possible qui est de diminuer la force musculaire au niveau des mains. Ah, donc ça m'arrive d'en faire deux, trois fois par an, mais toujours après avoir essayé
la machine à la maison. Il y a aussi Lionel sur Twitter qui nous demande s'il n'existe pas tout simplement un médicament à avaler par la bouche contre les problèmes de transpiration excessive.
Oui Lionel, alors on a un médicament qui s'appelle l'oxybutynine qui bloque l'influx nerveux responsable de cette transpiration. Le problème c'est que pour être efficace, on est obligé de monter les doses et que nous avons à ce moment-là des effets secondaires à type de constipation, de sécheresse et de troubles oculaires. Donc pour 2-3 jours, pour un événement, ça peut être réalisable. Au long cours, c'est beaucoup plus compliqué à utiliser.
Vous préférez les méthodes dont on a parlé tout à l'heure. Alors on a aussi une question qui nous a été laissée sur notre répondeur le 39-21, une question de Barbara qui est sceptique. Elle demande si c'est pas très embêtant finalement pour les patients une fois traités par les méthodes dont on vient de parler de ne plus transpirer du tout. Elle dit que transpirer c'est normal quand même, donc est-ce que ce n'est pas dangereux d'empêcher définitivement, notamment avec la machine Miradry dont vous avez parlé, de toute sueur finalement.
Non, alors on n'empêche pas du tout toute sueur.
Juste
ça
sous
serait
les aisselles,
excessivement
ouais.
dangereux. C'est une fonction vitale pour l'organisme. Là, sous les aisselles, on parle de traiter soit les hyperhidroses, soit tout bêtement les personnes qui veulent juste ne plus avoir à se soucier de leur aisselle. En plus, la machine est pile définitivement. Donc, c'est de la médecine esthétique, si
bon,
vous voulez.
Et puis rassurez-vous, vous transpirez toujours des pieds, des
cheveux.
Oui,
et puis de toute façon, sous les aisselles, on n'a que 2% de l'ensemble des glandes sudorales. Ouais. Donc ça ne modifie en rien notre capacité à thermoréguler.
Alors, dernière question de Samira qui vit dans le 78. Elle demande si les méthodes dont vous avez parlé sont efficaces quand on ne souffre que de transpiration excessive la nuit.
Ah, alors, c'est une question intéressante. Quand on souffre de transpiration la nuit, a priori, ça n'est pas une transpiration émotionnelle. Il faut, ça peut éventuellement être ce qu'on appelle une hyperhidrose secondaire, c'est-à-dire qu'il va falloir faire éventuellement un petit bilan thyroïdien, par exemple, hormonal, pour s'assurer qu'il n'y a pas une raison à cette hyperhidrose. Les hyperhidroses des aisselles, par exemple, en général, sont calmées la nuit. On ne transpire pas la nuit sous les aisselles. Il est évident que si la nuit vous êtes trempé et qu'il fait 40 degrés à l'extérieur, c'est normal. C'est moins normal de transpirer énormément la nuit. On peut rapprocher ça des bouffées de chaleur en plein hiver quand il fait 19 degrés dans sa chambre. Donc d'accord. Un petit bilan s'impose.
Merci beaucoup docteur pour tous vos conseils.
Merci Julia.
Ah, merci. Et merci d'avoir pris également le soin de répondre aux questions de nos auditeurs. Alors Mélanie, c'est l'heure à présent de passer à notre chronique vite fait, très bien fait.
Et oui, c'est l'heure.
Et c'est là que je me tourne vers vous Caroline Veil. Alors, est-ce que travailler en couple, c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
Je vois vos mots dubitatifs. Écoutez, tant qu'à faire de passer 8 heures par jour à travailler, pourquoi ne pas le faire avec la personne qu'on aime le plus ?
Ouais, pour divorcer éventuellement. Mais...
pas forcément. Il suffit peut-être d'observer certaines règles, de se fixer des points. Mais disons que ça peut être quand même un très bon projet. D'abord, le projet,
c'est le projet qui fonde le couple. Donc, pouvoir rêver ensemble, imaginer une réussite à deux, c'est quand même quelque chose qui va porter, qui va renforcer le lien. Ensuite, il faut voir aussi qu'on partage. On partage des émotions parce qu'on va éventuellement avoir peur ensemble, avoir des inquiétudes, mais aussi des joies. Donc,
des succès professionnels, éventuellement.
Et,
ouais.
Et surtout, c'est ce qu'on souhaite, parce que quand on s'associe ensemble, c'est qu'on espère réussir à deux. Donc ça aussi, ça renforce le couple. Ensuite, on n'est jamais seul. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on est toujours deux dans une galère. On peut toujours être soutenu, faire part de ses pensées, même négatives, à l'autre, qui va vous donner un coup de pouce. Disons qu'on a une épaule. Mmh. Et puis, bien évidemment, il y a la confiance. Hein. Vous n'aurez jamais de meilleur allié que celui ou celle qui partage votre vie. Et enfin, pour terminer, il faut bien voir aussi que tant qu'à faire, ça donne beaucoup plus de liberté. Mmh. Il y a moins de contraintes. Par exemple, vous n'êtes plus obligé de poser des dates de vacances. S'il y a un enfant qui est malade, l'autre en face comprend parfaitement que vous partiez en quatrième vitesse. Vous en occupez. Voilà.
Bon. Je trouve que ça, c'est quand même le tableau idyllique, on va dire. Moi, j'y vois surtout pointer des inconvénients. Beaucoup d'inconvénients à travailler avec son conjoint. Je trouve.
Vous n'avez pas tort, mais vous savez, c'est comme tout, rien n'est jamais parfait. Donc, effectivement, il y a la promiscuité, c'est-à-dire qu'on est H24 ensemble. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui risque de dévitaliser la relation, de faire qu'on ne voit plus l'autre que comme un collègue, un associé, et que le couple s'efface devant derrière le couple professionnel. Oui. Alors, le deuxième gros inconvénient, ce sont les désaccords, les conflits, bien sûr. Parce qu'il faut bien voir que quand vous vous engueulez, vous faites engueuler avec votre patron, une fois, quand vous êtes dans une entreprise, vous le laissez sur place et vous rentrez chez vous.
Et on est bien content de retrouver son mari gentil, mais là,
si le patron, c'est le mari... Ou sa femme. Ouais, mais là, d'un seul coup, si le patron, c'est le mari, c'est-à-dire que vous l'avez à la maison et jusque dans la chambre à coucher. Ouais. Donc, ça peut poser des problèmes. Et puis, aussi, le dernier écueil qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire qu'on peut ne plus jamais s'arrêter de travailler. Ah, oui. En même temps, ça fait qu'on a aussi toujours quelque chose à se dire.
On n'a pas de grands blancs dans le couple. Alors, quelles sont les recommandations à observer pour que ça se passe au mieux ?
Alors, écoutez, je crois déjà que le principal, c'est de se mettre tous les deux sur un plan d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Dans un couple, normalement...
Le mari ou la femme n'est pas le patron de l'autre.
Voilà, n'est pas le patron de l'autre. Quand on travaille ensemble, même s'il y en a un qui a de plus grosses responsabilités ou qui travaille plus, parce que ça peut être, ou qu'on n'est tout simplement pas associé, ça arrive aussi, il faut se dire que l'autre est son égal et le traiter. Donc, il faut abolir les rapports hiérarchiques. Même si la société est grosse, etc., l'autre doit être traité sur un plan d'égalité. Ensuite, il faut aussi que, au départ, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un local. Donc, il faut veiller à ce que chacun ait son coin et que ce ne soit pas non plus toujours le même qui soit sur le bureau.
Et l'autre dans les toilettes.
Voilà, j'allais dire sur la table de la cuisine. Mais pourquoi pas, on peut extrapoler. Et puis, reconnaître aussi le droit à l'erreur. Vous savez, souvent, on a tendance à exiger le plus des gens qu'on aime. Ils doivent être absolument parfaits. Si vous étiez dans une société, on vous accorderait de vous tromper. Là, c'est exactement la même chose. Alors, il y a un petit truc pour ça aussi, c'est de faire un point par semaine sur ce qui va et ce qui ne va pas. Mm-hmm. Exemple, là, tu ne m'as pas très bien parlé, ça m'a bousculé, j'aimerais que dorénavant, quand tu as quelque chose à me dire, on le fasse autrement. Ou n'arrive pas en retard, je compte sur toi. Voilà. Mm. Un point par semaine, voilà, gentiment, ça peut être autour d'un verre, ça peut être même à la maison, c'est pas grave. Mmh. Et puisqu'on parle de maison, je pense que si on peut, dans la mesure du possible, observer un sas de décompression entre le moment où on est au bureau et le moment où on rentre, chacun de son côté, c'est-à-dire il y en a un qui va prendre une douche, on s'accorde un petit moment de solitude. C'est pas forcé que ce soit long, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure.
On va arroser les plantes tout seul.
Voilà, c'est ça.
Mais très rapidement, Caroline, comment on fait pour continuer de se séduire quand on est ensemble 24 heures sur 24 ?
C'est le problème. Alors d'abord, si
parce que c'est quand même ça le plus important.
Ah, c'est garder son mari.
Mais, ou sa femme. Ouais. Écoutez, déjà un premier conseil, ça a l'air bête comme ça, mais quand on travaille ensemble, pensez à s'habiller.
Ah oui, on ne reste pas en jogging.
Voilà, on ne reste pas en jogging. Et même si on travaille ensemble et qu'on quitte les lieux, si on allait dans une société, dans une entreprise, on s'habillerait, se mettrait au mieux de soi-même pour donner une bonne apparence. Et là, c'est pareil. Se dire que l'autre doit toujours avoir une bonne apparence de l'autre. C'est important aussi de s'octroyer des plages de liberté. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on est enchaîné l'un à l'autre. Donc chacun doit aussi avoir son petit jardin secret. Et puis, dernière chose, ne pas oublier
oublier de se faire des compliments. Si vous étiez en entreprise, quand vous faites quelque chose de bien, on vous féliciterait. Et bien là, ne pas hésiter à le faire, parce que comme tout un chacun, on a besoin de reconnaissance.
Eh ben merci Caroline Weil, je vous félicite. Nous ne sommes pas en couple, mais je vous félicite. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Et voilà, cette émission touche à sa fin. On sera évidemment de retour avec Mélanie Gomez demain dès 11h. Mélanie, quelle sera notre grande question du jour ?
Eh bien Julia, demain on va se poser une question importante. Êtes-vous certain de bien choisir vos produits ménagers ? Par exemple, les produits bio, sont-ils vraiment meilleurs, c'est-à-dire efficaces mais sans danger pour notre santé ? Comment bien les choisir ? Une émission qui sera en partenariat avec le magazine 60 millions de consommateurs.
Et puis, il y aura aussi de nouveaux sujets tendances de la santé et du bien-être. Alors d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.